Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conversation. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, Kebir Mustapha Hammi, un auteur autant prolixe que discret, qui aime dans des livres raconter les grands personnages historiques tout en sondant l'âme humaine avec beaucoup de finesse et de bienveillance. Il nous invite à travers ses livres, toujours, à aller en quête du meilleur, à la fois chez nous et chez les autres. Le dernier roman qu'il vient de publier aux très belles éditions Elisa, d'un roman au titre énigmatique, Le coiffeur aux mains rouges, n'échappe pas à la règle et il est venu nous en parler aujourd'hui. Kebir Mustapha Hammi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir.
Merci de votre invitation.
Alors, dans la première partie de cet entretien, j'aimerais qu'on parle d'abord de ce dernier livre et puis ensuite on ouvrira la discussion sur la littérature et votre œuvre en général. Mais d'abord sur ce livre, au titre, je l'ai dit, un peu intriguant, Le coiffeur aux mains rouges. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans tout dévoiler, hein, puisqu'il n'est pas question ici de spoiler, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intrigue de ce livre et surtout aussi de comment vous est venue l'idée de cette histoire? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire?
Alors, ce qui m'a inspiré cette histoire, c'est qu'un jour, je suis passé près dans la banlieue sud de Paris, par un carrefour où j'étais passé de très très nombreuses fois, vraiment peut-être 10 000 fois, parce que j'habite là depuis de très longues années, mais je n'avais jamais remarqué le nom de ce carrefour, j'y faisais pas attention. Et puis un jour, j'ai levé les yeux, j'ai vu la plaque 19 mars 1962. Vous imaginez bien qu'une date comme ça, pour moi, elle a été très très forte en émotion, elle a déclenché beaucoup de choses. Je suis rentré à la maison et il y avait une histoire qui sommeillait dans ma tête. Vous savez, dans la tête d'un écrivain, il y a plein de choses, mais il y a des choses qui attendent un déclencheur pour tout se mettre en marche. Et puis là, c'était cette plaque. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à écrire. Alors pourquoi ce 19 mars 62? Parce que, comme vous le savez, c'est la fin de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les armes se sont tues le 19 mars 62, et puis jusqu'au 5 juillet, qui est une date comme ça arbitraire, qui définit un petit peu, qui marque, qui symbolise l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est toute cette période qui est l'indépendance, hein, du 19 mars 62 au 5 juillet 62. C'est que cette période-là correspond à la... Mon père est décédé dans cette période-là. Et
on rappelle que votre papa était algérien.
Oui, on était à Tsaza et donc moi j'allais sur mes 10 ans, j'avais 9 ans et demi et j'étais près de lui. Il était malade depuis quelque temps, mais il était très très lucide et il m'a demandé de lui allumer la radio. Il était quelque chose, je pense, comme 20 heures. J'ai allumé la radio, il suivait les informations vraiment avec beaucoup de lucidité et je l'ai vu heureux d'apprendre que c'était l'indépendance de son pays. Il était très très joyeux. Et puis ensuite, je me rappelle lui avoir mis, il aimait beaucoup la musique, hein, j'apprendrai par la suite que c'était un disque de Billie Holiday qu'il m'a demandé de mettre. Et je suis parti, j'ai quitté sa chambre et j'ai appris 3 heures plus tard, j'ai entendu, parce que je m'étais endormi, il était 23h, 23h30, j'ai entendu des pleurs et bon, c'était mon père qui était parti, voilà. Donc vous voyez, ce moment est resté très très fort dans mon esprit.
Et donc c'est très intime, très là, le point de départ de l'histoire est très intime.
Oui, c'est ça, voilà. Et j'ai pensé pendant très très longtemps que la guerre d'Algérie, et donc la guerre de mon père, parce que vous imaginez la fête qui s'en est suivie, en tout cas je peux vous dire qu'à Tsaza c'était absolument extraordinaire. Je le dis toujours parce que c'est important de le rappeler, comment les gens de Tsaza, comment les Marocains ont fêté l'indépendance de l'Algérie, c'était absolument magnifique, mais nous n'avions pas le cœur à nous associer à cette fête parce qu'on venait de perdre notre père. Et donc, je pensais que la guerre d'Algérie s'était achevée avec la guerre, avec les armes qui se sont tuées, et puis avec la mort de mon père. Mais non, je vois que les années se sont ajoutées aux années, des décennies se sont passées, se sont écoulées, et puis rien, cette guerre était encore toujours, elle n'en finissait pas de finir. Et puis ensuite, j'ai eu des enfants, et mes enfants continuaient de me parler de la guerre d'Algérie. Vous savez que ça finissait par m'agacer. Et puis voilà encore que j'ai mon petit-fils qui est rentré au collège l'an dernier et qui, lui aussi, s'est mis à me parler de la guerre d'Algérie. Je me suis dit, il faut absolument qu'on arrête avec ça. Je veux dire, il y a un moment, où il faut pouvoir tourner la page. On va essayer de s'entendre, de parler d'autre chose. Et donc voilà, c'est comme ça que cette écriture, j'ai eu non seulement envie, mais besoin de l'écrire pour essayer, en tout cas dans un livre, d'y mettre un terme pour ma part.
Donc c'était la volonté, c'était de répondre à un quasi impératif pour vous de revenir sur ce sujet sur lequel vous n'aviez pas encore vraiment écrit et d'y mettre un terme à votre façon.
Voilà, c'était cela. Et donc ma manière, pour répondre un petit peu à la, puisque c'était une double question que vous m'avez posée, vous résumez en quelque sorte cette histoire, ce roman. Je voulais tout simplement mettre en face à face, le descendant d'un bourreau, le descendant d'une victime aujourd'hui, et puis loin du théâtre de la guerre, c'est-à-dire en France, dans la région parisienne, vraiment à l'endroit même où j'ai vu cette plaque, 19 mars 1962. Et je me suis dit, comment est-ce que l'un et l'autre vont répondre à cette question, à ce problème? Nous voilà face à face, l'un à l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait?
Parlez-nous de ces personnages. Oui. Qui est le narrateur? Qui sont les personnages? Qui est le bourreau? Qui est la victime? Et qu'est-ce qui va les lier à un moment dans votre intrigue? Sans tout dévoiler, mais juste pour qu'on pose un peu ce qui compose ce récit.
Alors, le narrateur, tout d'abord, c'est quelqu'un qui est en train de chercher l'auteur d'un double meurtre. L'auteur ou les auteurs d'un double meurtre, un meurtre en Algérie extrêmement violent qui a eu lieu il y a très très longtemps, et puis l'auteur d'un meurtre qui a eu lieu en France il n'y a pas longtemps. Donc, il croit trouver la réponse, il croit connaître l'identité du tueur ou des tueurs. Donc ça, c'est une chose pour le narrateur. Le narrateur, forcément, c'est un monsieur qui n'est pas très âgé, mais qui croit tenir vraiment les fils de cette histoire. Il n'a pas tort dans un certain sens. Et puis, à côté de lui, il y a d'autres personnages qui sont tout aussi importants. Il y a bien évidemment un jeune, Lakhdar, qui est venu d'Algérie, qui est assez, c'est quelqu'un d'assez raffiné, de simple, fin, intelligent, et je veux dire, voilà, mais qui est très très mystérieux. On ne sait pas d'où il vient. On va apprendre tout à fait accidentellement qu'il vient d'Algérie, qu'il vit à Barbès et qu'il vient sans cesse dans la banlieue sud. Il visite sans cesse une commune, Châtenay-Malabry, dans la banlieue sud de Paris. Et il a lié connaissance, il a croisé fortuitement le narrateur. Il a rencontré des personnages importants, à la fois Madame Robitaille, une dame de 65 ans qui a vécu en Algérie, qui a connu, elle, dans les années 50, un jeune Lakhdar, qui avait à peu près l'âge de ce jeune Lakhdar qui vient d'Algérie et qui lui ressemblait, ce jeune Lakhdar qui va un jour, aujourd'hui, enfin il y a 40 ans après l'indépendance, qui vient frapper chez elle, à Châtenay-Malabry. Elle est surprise parce qu'elle voit à la fois le visage de ce jeune homme et le nom Lakhdar qui la frappe sur le champ, parce qu'elle croit qu'elle est revenue 40 ans ou 45 ans en arrière et qu'elle est face à celui qu'elle avait aimé autrefois et qui était mort pendant la guerre, qui avait été tué même, et puis sauvagement. Et puis il y a un monsieur très important aussi, un personnage important qui s'appelle Monsieur du Bon Repère. Alors, Monsieur du Bon Repère est un très, très vieil homme, santé fragile, qui, quand il sort, au mépris de sa santé, il va aider les migrants, il va aider tous ceux qui n'ont pas les papiers, il aide à dans leurs devoirs les enfants des étrangers. Donc, c'est vraiment quelqu'un, un humaniste absolument extraordinaire. Voilà. Bon, il y a un autre couple aussi,
les Maillards.
Les Maillards, tout aussi important. Voilà, c'est là où ça se passe, c'est-à-dire entre ces gens, des gens qui se trouvent très sympathiques les uns les autres, qui échangent des sourires, des gestes affectueux, mais voilà. Mais il y a quelque chose, un non-dit très important.
Alors, pour continuer sur l'intrigue, rien n'est révélé au départ, c'est-à-dire qu'on avance dans le livre en se posant plein de questions, et c'est au fur et à mesure, à travers des indices, à travers des... Même si on sent, on sent où est-ce que ça va aller, on sent que l'issue est tragique, ou va être tragique, mais on comprend au fur et à mesure. C'était une volonté de votre part d'avancer à pas feutrer dans cette histoire ?
Oui, bien sûr. Ça, c'était vraiment une nécessité pour ce récit, parce que j'expérimente à chaque fois, dans chaque roman, quelque chose, un procédé d'écriture. Et là, je voulais essayer un petit peu le code policier, mais pas le code policier avec une finalité, avec la résolution d'un objectif comme finalité de ce roman. Mais un petit peu à la manière, vous savez, il y a les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment Faulkner, tu vois, vous savez, quand ils utilisent ces procédés, ce registre policier, c'est cela qui m'intéressait. Et je me suis dit qu'il fallait absolument, d'une part, avancer comme ça, très, très progressivement, vraiment sur un élan un petit peu comme ça, dramatique, voire tragique. Et puis, la langue était importante dans ce sens, parce qu'il fallait absolument une langue extrêmement dépouillée, extrêmement sobre, très pauvre en adjectifs, en adverbes. Vous voyez, il fallait vraiment que ce soit tendu et il n'y a que cela qui pouvait servir de cette manière.
L'écriture est vraiment au couteau. Il y a des passages où les phrases sont vraiment très brèves, très incisives et ça permet de maintenir justement un rythme un peu de tension, en fait, tout au long du livre. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez choisi de parler de descendants de victimes et de descendants de bourreaux. Ce sont des blessures qui sont quand même extrêmement vives, extrêmement difficiles. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder la question de la guerre d'Algérie, puisque c'était l'idée de départ de votre livre, par le biais de ces blessures extrêmement difficiles à penser? Parce que là, on peut dire, selon l'expression consacrée, que là, vous avez vraiment trempé la plume dans la plaie.
Oui, c'est-à-dire que c'est que je vis en France, comme vous le savez, et puis donc, mes enfants sont français, mes petits-enfants sont français, je précise, franco-marocains, hein, mes enfants et mes petits-enfants, j'y tiens quand même, c'est très important. Mais ils vivent dans un espace où à la fois, moi, vous savez, cet héritage de mon père, ce lien avec mon père, qui était un moment très très fort hein, quand il a sa disparition, son décès, mais en même temps, aujourd'hui, cette France qui est parasitée, qui est empoisonnée par ces faux questionnements, parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été soldés pendant avec la fin de la guerre. Et il faut dire les choses, il faut les appeler par leur nom. Les choses sont souvent, j'allais dire quelquefois, mais souvent instrumentalisées de part et d'autre de la Méditerranée. Mmh. Aussi bien en Algérie qu'en France, il y a des gens qui n'ont pas envie que ça cesse, il y a des gens qui ne veulent pas que cette guerre s'arrête, il y a des gens qui utilisent cela, moi je le vis au quotidien en France, je ne vis pas en Algérie pour voir comment c'est, mais je lis un petit peu la presse algérienne, je vois les livres algériens, les Algériens aussi en Algérie, il y a beaucoup de gens qui instrumentalisent cette histoire, et c'est extrêmement triste. En France, on n'arrête pas pendant les élections ou même en dehors des élections à instrumentaliser cette affaire alors qu'il y a des souffrances de part et d'autre qui sont incommensurables et qui ne demandent qu'à être entendues une bonne fois pour toutes pour tourner la page. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre, ma plume à deux mains pour essayer de voir comment vraiment, en voyant le point extrême. Le point extrême, c'est quoi ? Je crois qu'on pouvait, je ne pouvais pas aller plus loin que ça, mettre en face l'un de l'autre, deux héritiers d'une mémoire partagée, une mémoire partagée qui ne demande qu'à être, soulagée, mais on ne veut pas. Du coup, je me suis dit, bon, quand ils se font face, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller jusqu'au point le plus loin, le plus extrême, hein, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire et de proposer au lecteur.
Alors, ce qui est fascinant dans l'histoire que vous déroulez et dans ce livre, c'est que vous abordez la question du pardon pour tendre vers une relation apaisée entre d'anciens ennemis. Vous parlez aussi de la question de la rédemption, de quelqu'un qui a pu commettre un crime abominable et qui, des années plus tard, le réalise et décide de consacrer sa vie, au contraire, à faire le bien. D'abord, puisqu'il est beaucoup question de ça dans le livre, et vous mettez même des plaidoyers, je vais citer un petit extrait, permettez-moi juste de retrouver la page.
Oui, là voici,
vous dites, qu'est-ce qui fait qu'on ne croit qu'au pouvoir de destruction? Qu'est-ce qui fait parfois qu'on ne croit qu'on peut bâtir qu'en détruisant? Peut-on prêcher le mal pour cueillir le bien? Peut-on réparer le mal par le mal? Peut-on tout détruire pour bâtir de nouveau? Peut-on bâtir sur des ruines? Ce ne sont que des ruines qu'on peut ériger sur des ruines, que des ruines. Donc, vous ne croyez pas au fait que l'on répondent au mal par le mal et qu'il faut en passer par le pardon, qui est une vertu, et par la rédemption, qui pour vous reste toujours une possibilité. C'est en ça que vous croyez que cette possibilité-là et cette vertu-là sont essentielles aujourd'hui ?
Totalement. En ce qui me concerne, oui, en tant qu'homme déjà. Avant d'écrire un livre, je crois en tant qu'homme, en tant que citoyen, à la capacité, à la vertu du pardon. Et pour pouvoir tourner une page, je ne crois pas l'oubli. Je dis qu'il faut cultiver l'oubli, parce que il faut cultiver la mémoire, c'est-à-dire qu'elle doit garder trace de ce qui a été vécu, mais vraiment, parce qu'on ne peut pas oublier ceux qui ont souffert, on ne peut pas oublier ceux qui ont payé de leur vie terriblement certains actes, de leur vie, mais le pardon est essentiel pour pouvoir avancer. Ça, je pense que c'est une grande vertu.
Et pourtant, un de vos héros, on ne va pas évidemment dire lequel, ne pardonne pas. Il va jusqu'au bout de son désir de vengeance. Et c'est ça, je disais tout à l'heure, qui est assez fascinant dans le livre, c'est qu'il y a ce message de tendre vers le pardon et de tendre vers la miséricorde. Et en même temps, il y a ce désir irrépressible de venger le mal par le mal. Et vous dites d'ailleurs, juste une phrase qui symbolise très bien cette tension et que je trouve qui symbolise aussi très bien l'esprit du livre, c'est que le titre que ce vieil homme, Monsieur du Bon Repère, est en train d'écrire à la fin de sa vie s'appelle « Mémoire, la vie aussi entre le désir de vaincre et la peur de perdre ».
Oui, je crois que quelque part nous sommes tous pris dans un étau, c'est-à-dire qu'on veut à la fois, quand il y a une brutalité qui a été commise à notre encontre, on a envie de se venger, je veux dire, il n'y a que des forces démoniaques qui veulent se libérer de nous pour faire payer l'autre, mais en même temps, la raison, en tout cas, j'espère que la raison est toujours là pour faire en sorte que, ce que j'ai essayé de dire très très souvent au sujet de ce livre, c'est que j'ai respecté jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, chacun des personnages. Vous savez, moi je le répète souvent, je ne suis pas magistrat, je ne suis ni juge ni avocat. Moi je suis écrivain. Un écrivain est quelqu'un qui accepte, qui essaye de descendre au plus profond de ses personnages pour voir un petit peu ce qu'il y a au fond d'eux sans les juger. Je dis souvent que un écrivain ne juge pas ses personnages une fois qu'il est en train d'écrire, bien évidemment, une fois qu'il offre. Une histoire, un récit qui met en scène des protagonistes qui sont complètement diamétralement opposés. Je l'ai fait avec Mardochée et Charles de Foucault, par exemple. Voilà, ils se sont livrés à une action absolument abominable, mais mon rôle n'était pas de les juger, mon rôle était de les mettre en situation. Maintenant, pour le coiffeur aux mains rouges, il est vrai qu'il y a un personnage qui a envie de se venger. Il ne jure que par la brutalité, que par la violence la plus infâme. Il a envie en tout cas d'aller jusqu'au bout, et je dois l'accompagner dans cet élan. Je ne peux pas l'empêcher d'y aller, mais simplement, c'est la magie de l'écriture qui fait que j'ai la possibilité, par l'art d'écrire, de mettre des personnages en situation, tout en les laissant, avec ce désir de vouloir se venger, offrir une petite lucarne, c'est magique, où la lumière va venir et espérer que le lecteur ou la lectrice vont percevoir cette lumière.
Et puis, vous montrez aussi toute la complexité de l'âme humaine. Je le disais, dans vos livres, il y a toujours une approche très fine de ce qu'est l'âme humaine. Et là, en l'occurrence, tous les personnages ont une part d'ombre et de lumière. Il n'y en a aucun qui est complètement bon, aucun qui est complètement méchant. Et ça aussi, c'est une volonté de votre part de montrer que finalement, chez chacun d'entre nous, il y a ces deux parts et que c'est à chacun de décider à laquelle il a envie de donner le plus de place.
J'y crois profondément, absolument. J'ai publié cette année des aphorismes dans le 360, et l'objet de ces aphorismes, c'était exactement cela. C'est cette part de lumière qu'il y a toujours au fond de nous et à laquelle il ne faut jamais tourner le dos. Certains lui tournent le dos, mais elle est toujours présente. Il y a une part en nous qui est, qu'on ne peut pas soumettre et qui est pleine de lumière. J'en suis persuadé, même dans les cas les plus désespérés.
Et puis vous dites aussi une très jolie phrase qui sert un peu de guide, en fait, pour se prémunir de la tentation de nourrir le mauvais. Vous dites, il ne suffit pas d'être un homme pour avancer, il faut être tous les hommes. Donc finalement, c'est la capacité d'empathie à reconnaître l'autre en nous et à nous reconnaître nous-mêmes dans l'autre qui peut nous prémunir du désir de vengeance et presque de l'instinct de violence qui est presque naturel quand on a subi des injustices.
C'est une phrase fondamentale et qui est vraiment un petit peu le socle de ce roman, parce qu'effectivement, il faut pouvoir, c'est ça le sens de cette phrase, il faut pouvoir reconnaître la vérité de l'autre, même quand c'est notre adversaire, n'est-ce pas, pour avancer. Celui qui pense qu'il est seul à détenir la vérité ne peut pas avancer, parce qu'il ne va songer qu'à détruire celui qui est en face de lui, mais celui qui est en face de lui va un jour aussi penser la même chose et vouloir le détruire. Il faut être tous les hommes, c'est-à-dire être la capacité d'être soi et d'être l'autre, être son adversaire, et pour avancer, pour considérer que l'autre, même dans les cas les plus désespérés, dans les cas de guerre, de violence, de brutalité, il faut penser que l'autre, il a un petit bout de vérité qu'on peut avancer l'un et l'autre, sinon on ne peut pas avancer. Même avec la force la plus brutale, vous allez gagner sur le coup, mais vous ne gagnerez pas sur le long terme.
Et finalement, que l'autre reste aussi un homme. Alors, je ne vais pas vous cacher que moi, en lisant cet ouvrage et en lisant toute cette philosophie qui le sous-tend de la demande de pardon, etc., mais je pensais évidemment au désordre actuel du monde, au conflit actuel et notamment à celui terrible au Proche-Orient, à Gaza. Est-ce que c'est un arrière-plan que vous avez eu en tête en écrivant ce livre aussi? Parce que moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, parce que comme beaucoup de gens révoltés par les injustices actuelles, on doit lutter contre sa propre haine ou le propre risque de se déshumaniser, parce qu'on est tellement meurtri qu'on finit aussi par ne pas voir la souffrance des autres hommes, comme vous dites. Est-ce que c'est un arrière-plan? Est-ce que c'est un contexte que vous aviez en tête au moment de l'écriture du livre?
Il était présent, effectivement, puisque j'ai publié en 2021 un poème en 7 langues. Ce n'est pas moi qui l'ai traduit en 7 langues, mais ce sont des traducteurs qui ont publié mon poème « Le vieil homme ». Et « Le vieil homme », en mai 2021, faisait suite à des bombardements abominables contre les Palestiniens en mai 2021. Et j'écris ce poème 2021 où le mot « guerre » n'est jamais prononcé, ni le mot « arme », ni le mot « sang ». Mais c'est un vieil homme simplement qui se souvient qu'en 48, il a dû quitter sa terre et sa maison, qu'il a rejoint la route des errants. Donc, vous imaginez ce poème que j'ai publié d'abord, je tiens à le signaler, qui a d'abord été publié aux États-Unis avant d'être publié en France. Et c'est donc quelque chose, voilà, c'est un drame qui me touche profondément, comme beaucoup de gens, et qui est toujours présent dans ma tête. Et que vous fassiez ce lien, ça me rassure, parce que je me dis que les lecteurs ont saisi ce qu'il y avait dans l'arrière-plan et cela me conforte.
En fait, finalement, avec les leçons du passé et déjà l'implication qu'on peut avoir des guerres comme la guerre d'Algérie dans le présent, encore aujourd'hui, c'est finalement, votre livre est une incitation à rester vigilant pour qu'on ne reproduise pas la même chose et que dans 50 ans, on ne soit pas encore sur les griefs ou le désir de vengeance que les événements actuels sont en train de probablement créer chez beaucoup de personnes. Mais du coup, ça me fait penser à la question sur le pouvoir de la littérature, parce qu'aujourd'hui, dans le bruit, dans la cacophonie que nous sommes en train de traverser avec tout ce qui se passe actuellement, est-ce que la littérature est le seul lieu et le seul refuge où on peut encore peut-être porter cet espoir, où on peut encore porter cette parole de vigilance et une parole qui peut encore rassembler là où tout, dans les discours sur les réseaux sociaux, dans les discours aussi parfois politiques, là où tout semble divisé. Est-ce que vous croyez à ce pouvoir essentiel de la littérature encore aujourd'hui?
Je crois bien sûr à ce pouvoir de la littérature, même s'il ne suffit pas. Il faut bien évidemment pouvoir libérer la parole, il faut pouvoir discuter, débattre respectueusement des drames que nous vivons, des tragédies, de la tragédie palestinienne, de ce que vivent les Palestiniens. Il faut qu'on en vive. Vous savez qu'ici en France, bon, la parole commence un petit peu à se libérer, mais ça a été un petit peu très très difficile de parler. Ça continue d'être très difficile de parler du drame palestinien, de cette tragédie qui est vécue chaque jour par les Palestiniens. Donc la littérature est importante, mais elle ne suffit pas. Il faut que des débats aient lieu, non seulement dans les familles, mais dans les médias, sur les plateaux de télévision. Il faudrait qu'on en parle de manière libre et qu'on puisse reconnaître les droits de chacun, le droit de tous. J'ai écrit un petit poème qui vient de paraître en un seul livre avec des illustrations, avec des peintures d'un peintre irakien qui vit en France, Hassan Faideh. Ce poème, c'est un long poème pour la Palestine qui s'intitule « Dessine-moi une Palestine heureuse ». Je voulais absolument marquer non seulement ma solidarité, mais dire ma fraternité, ma douleur face à cette tragédie. Comme il n'était pas possible jusqu'à présent de le dire dans les médias, je ne vous cache pas que j'ai écrit des fois des textes que je pense toujours très respectueux, mais qui n'ont pas été publiés, qui ont été refusés de publication, et j'ai écrit ce long poème qui a été publié par Alain Gorius, vous savez, les éditions Almanach, et j'ai marqué ma solidarité de cette façon-là. Donc la littérature, oui, est importante, c'est un espace, voilà, qui nous permet de dire ce que nous pensons, mais il ne faut pas en parler, même avec les plus jeunes. Moi, je constate, finalement, l'autre jour, je me suis rendu compte, je pensais que mon petit-fils qui avait 13 ans ne se sentait pas concerné, n'entendait pas parler de cette affaire-là. Et puis je me rendais compte, mais qu'il en savait beaucoup, je veux dire, parce que les enfants parlent entre eux, ils savent ce qui se passe, ils entendent la télévision, ils entendent les adultes. Donc il ne faut pas faire l'autruche, il faut parler ouvertement, avec respect des uns et des autres, de ce drame qui bouleverse le monde entier.
Et vous avez eu l'occasion, depuis sa parution, de faire beaucoup de présentations de cet ouvrage. Vous nous avez dit que vous étiez d'ailleurs récemment à Tanger. Quelle est la réception du public du roman et puis surtout des questions que vous posez par rapport à cette guerre d'Algérie et plus largement par rapport à toute cette philosophie qui sous-tend votre livre? Quelle est la réaction du public?
Écoutez, je suis absolument émerveillé, c'est assez extraordinaire. Je ne pensais pas que j'aurais cet accueil-là, déjà notamment au Maroc, puisque j'ai fait beaucoup de présentations au Maroc. Je vais continuer encore à la rentrée. Il y a des rendez-vous qui sont pris dans plusieurs villes. Je suis absolument émerveillé par l'accueil, très, 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 très positif, très chaleureux, et puis les gens ont envie d'en savoir plus, de débattre. Donc, est-ce que c'est cette histoire, parce qu'elle a un côté un peu polar qui fait que ça accroche les lecteurs? Mais voilà, il y a vraiment, je continue de tourner dans plusieurs lieux. En France aussi. Alors en France, bon, on peut penser qu'avec ce sujet brûlant, il y a des gens malgré tout, même si certains ne veulent pas en parler. J'ai eu quelques réactions un petit peu pas négatives directement, mais des gens qui ne voulaient pas en parler, ou des libraires qui ne voulaient pas, par exemple, vendre le livre. Hein. Ça, j'ai eu quelques réactions de cette manière-là. Mais dans l'ensemble, pareil, j'ai sillonné, je continue de sillonner la France pour parler de ce roman. Et les questions sont très franches et directes. Là, dernièrement, j'étais sur Radio France Internationale. C'était absolument fantastique. Hein. La journaliste était avec des questions très rigoureuses. Et puis, elle avait fait une très fine lectrice, une très fine lecture de ce roman. Et elle répercutait un petit peu les attentes des lecteurs. Hein. Elle avait pu anticiper, dire des choses. Je lui dis, vous croisez un petit peu toutes les lectures de certains lecteurs que j'ai croisés à travers la France. Donc ça me ça me réconforte, parce que je me dis que ce livre avait sa place et je m'en réjouis.
Et qu'il a créé la discussion. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce livre. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas dévoiler, mais en tout cas, voilà, c'est un très beau livre sur la question de la mémoire, la question de l'histoire et surtout la question du pardon et de la rédemption. Il met face à face des personnes qui ont vécu des choses terribles, et toute la question qui se pose pour eux, c'est qu'est-ce que j'en fais finalement de ces choses terribles que j'ai commises ou que j'ai vécu. Et donc, c'est ce face-à-face qui se déploie tout au long du livre, Le coiffeur aux mains rouges. Kébir Mustapha Ami, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu plus de vous et de votre aventure avec la littérature et l'écriture. D'abord, comment est-ce qu'elle est née, votre amour de la lecture et votre passion pour l'écriture? Vous avez grandi à Tézan, c'est une petite ville. Comment est-ce qu'on construit son imaginaire littéraire et qu'on tombe amoureux des livres?
Alors, tout simplement, un jour, je suis tombé sur un livre qui était à la maison. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais su comment il était arrivé là, parce que ma mère ne lisait pas, et puis bon, mon père était mort depuis très longtemps, j'avais 14 ans, et le livre c'était L'île au trésor, et je l'ai trouvé à la maison. Donc je l'ai lu et relu, et ça m'a bien plu, ça m'a vraiment emporté, cette histoire absolument fantastique. Et ensuite, je me suis mis à fréquenter la librairie Cosmos à Tsaza, qui était une librairie qui est devenue un café mort maintenant à Tsaza. Et j'allais là, il y avait un libraire absolument extraordinaire, Abdrahman, Allah yarhmou, et il me prêtait les livres. Il voyait bien que je n'avais pas de quoi acheter les livres, il était vraiment extraordinaire. Il me prêtait les livres et me disait simplement d'en prendre soin, ce que je faisais bien évidemment. Et je lisais, alors il y avait une espèce, je pense qu'il y avait un manque qui était lié à plein de choses. J'étais à César, la disparition de mon père a été quand même un moment très très fort. Aujourd'hui, bien sûr, j'en parle avec beaucoup de tranquillité, d'apaisement, mais ce n'était pas le cas pendant de longues années. C'est quelque chose qui m'a fortement marqué. Donc il y avait ce vide, et je l'ai rempli, je pense, comme ça avec la lecture. Je lisais tout, mais vraiment, quand je dis tout, c'est-à-dire tout ce qui me tombait sous les mains, j'étais fasciné de voir des pages écrites, et puis l'objet en tant que livre. Et puis, je ne vous cache pas que pendant longtemps, je commençais à regarder les couvertures des livres et au lieu du nom de l'auteur, je voyais Kebir Mustafa Ammi. Vous voyez, c'est là sur la couverture.
Ça s'appelle de la visualisation positive.
oui, c'est ça. C'était absolument fantastique. J'en ris toujours et je raconte souvent cette histoire quand je passe dans des collèges, des lycées ou même les universités. Et je dis aux gens quand ça les fait sourire, mais voilà, ça a commencé vraiment comme ça. Mais je lisais tout, c'est comme ça qu'était même ma passion pour Saint-Augustin. Vous imaginez bien que je ne comprenais pas tout ce que je lisais, parce que c'était complexe, les confessions de Saint-Augustin, la cité de Dieu, c'est très complexe. Mais je prenais ça, et puis je lisais, j'essayais de comprendre, je me battais. Voilà, et puis après, quand vous avez ce contracté ce virus, vous continuez,
vous partez. Et vous êtes toujours un grand lecteur ?
Je continue, oui. Vous savez, je pense toujours à cette phrase de Borges qui disait, vous savez, à la fin de sa vie, il perdait complètement la vue. Et c'était un grand lecteur, parallèlement au grand écrivain qu'il était. Il disait que ce qu'il craignait, c'était pas d'arrêter d'écrire, mais de ne plus pouvoir lire. Et je le comprends parfaitement. J'adore lire.
C'est en lisant que vous avez eu envie d'être écrivain ? Parce que je rappelle que vous enseignez la littérature anglaise aujourd'hui, mais au moment où vous avez commencé à écrire, ça répondait à une injonction, ça répondait à un vieux rêve. Comment vous êtes passé de la lecture à l'écriture ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup, mais tous ne passent pas à l'étape de l'écriture.
Oui, alors d'une part, c'est vrai que c'est en lisant, mais en même temps, vous savez, j'ai senti, maintenant je peux vous le dire, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait, qui demandait qu'à sortir. Et j'ai compris. J'étais pas quelqu'un d'extrêmement bavard, mais il y avait des choses qui demandaient à être exprimées, qui étaient enfouies au fond de moi, qui étaient tenues et retenues quelquefois. Et j'ai senti un jour que, en essayant de les mettre sur papier, que je me sentais mieux. Voilà. C'était un petit peu comme ça que c'est venu. Et puis, on y prend goût, et j'ai continué par la suite à faire ça.
Pour notre plus grand plaisir. Mais alors, la matière, une des matières, je ne vais pas dire la matière, mais une des matières principales de vos livres, c'est les personnages historiques. Vous avez consacré plusieurs livres à des grands personnages. Je pense à l'émir Abdelkader, je pense à Saint-Augustin, vous l'avez évoqué. Je pense à Hallège, je pense à Charles de Foucault et à son guide, Mardoché aussi, auquel vous avez consacré un livre. Pourquoi cette obsession pour les personnages historiques et surtout comment vous les choisissez ? Pourquoi cela plutôt que d'autres ?
Alors, quand ce sont des personnages historiques, j'essaye de trouver quand même un angle qui n'a pas été visité ou revisité. Donc, ça, c'est important pour moi. Ou un personnage qui les a fréquentés, qui lui est resté dans l'ombre, qui n'a jamais parlé. Vous savez, ce n'est jamais pour parler directement d'un personnage ou de ce qu'il a fait. Ça, c'est une chose très importante. Et voilà, je l'ai choisi aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi, pensé un petit peu au discours historique. Et je demande souvent pardon à mes amis historiens pour dire que l'histoire ne dit pas les choses comme elles devraient être dites, parce que les historiens, très souvent, il y en a encore, en tout cas beaucoup, qui parlent en affirmant les choses un petit peu de manière trop directe, alors que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus sujettes à caution. Et il y a beaucoup de doutes et beaucoup de zones d'ombre dans l'histoire. Et voilà, l'écrivain peut se permettre d'apporter une autre manière d'aborder l'histoire et d'éclairer des pans de notre mémoire qui n'ont pas été suffisamment éclairés, ou en tout cas avec une lumière crédible.
Je crois que c'est particulièrement vrai pour le livre Mardochée, où vous parlez de Charles de Foucault et où vous le présentez sous un aspect que les historiens rechignent parfois à exprimer dans sa globalité. C'est-à-dire que vous dites aussi tout le mal qu'il a fait et toutes les dérives qu'il a pu y avoir lieu, alors que les historiens n'insistent pas nécessairement sur cet aspect. Donc la fiction, c'est ce qui vous permet, selon vous, de compléter des aspects de ces personnages qu'on ne connaît pas par les livres d'histoire ?
Oui, bien sûr, ou alors des moments qui n'ont pas été suffisamment mis en lumière. Alors pour Charles de Foucault, c'est évident, c'est exactement ce que vous venez de dire, au point où ce brave monsieur a été, vous savez, fait saint il y a 3-4 ans, je crois, au Vatican. Donc voilà, on a mis en lumière simplement ce qu'il y avait de positif en lui. Or, je rappelle qu'il a fait quand même des choses qui étaient quand même pas très très jolies, notamment ce que lui appelait l'exploration du Maroc, mais qui était tout simplement un espionnage du Maroc avec la complicité d'un Marocain, Mardochée, Abisrour Mardochée, dont on ne sait pas grand-chose, puisque Charles de Foucault lui a réservé simplement, je ne sais plus, 4 ou 5 pages dans sa relation de voyage. Et je voulais absolument essayer de montrer à la fois leur complicité, leur alliance, mais leur zone d'ombre qui a prévalu pendant cette traversée de 11 mois au Maroc et qui a ouvert les portes du Maroc à la conquête coloniale. Ça, c'est une chose. Mais c'est également un procédé que je mets en œuvre quand, par exemple, je me penche de manière peut-être plus ludique dans un roman comme Ben Aïcha, Abdallah Ben Aïcha, oui. L'ambassadeur, puisque
le
on
fameux
sait, par
corsaire.
Exemple, le fameux corsaire. On sait, par exemple, il y a à peu près, je ne sais pas s'il y a une page et demie dans les livres d'histoire en France et une page et demie dans les livres d'histoire au Maroc, c'est-à-dire qu'il a existé, il a rencontré Louis XIV, la princesse de Conti. Mais voilà, il y avait des éléments qui me permettaient, moi, en tant que romancier, puisque le romancier peut affirmer certaines choses, c'est pas comme un historien. Je ne suis pas tenu à un devoir de réserve, je veux dire, je suis complètement libre et capable et autorisé à exercer ma liberté totalement. C'est ce que j'ai essayé de faire en essayant de reconstituer Versailles, les costumes, les soirées somptueuses, et puis cette rencontre absolument fabuleuse entre Abdallah Ben Aïcha et la princesse de Conti, la fille de Louis XIV. Voilà qui m'a permis non seulement de raconter ce moment qui était joyeux et joli, mais quand même, malgré tout, d'aller vers des choses qui étaient quand même essentielles, parce que elle s'est dissimulée dans cette relation, mais en fait, on voit qu'il y a une réflexion à la fois sur les classes sociales, sur le rang, sur la couleur de la peau, sur la religion, sur les origines. Donc, il y avait quand même un questionnement essentiel, et c'est ce qui m'importe d'ailleurs souvent dans la littérature, c'est vraiment essayer de glisser en filigrane du récit, un questionnement.
Oui, c'est ce qui caractérise aussi vos livres, c'est que tous vos récits tendent à, je ne vais pas utiliser le mot de leçon, mais ils tendent à partager quelque chose et à pousser à la réflexion sur certaines thématiques. C'est-à-dire que ce ne sont jamais des récits qui sont vraiment innocents, mais qui poussent à la réflexion. Alors, on a évoqué quelques-uns de ces personnages, l'émir Abdelkader, Saint-Augustin, etc. Ils ont tous vécu plus ou moins en Afrique du Nord. Vous, on l'a dit tout à l'heure, votre papa, Allah irhamo, était algérien, votre maman marocaine. Vous êtes aujourd'hui français, vous vivez en France, vous enseignez la littérature anglaise, vous êtes vraiment le réceptacle de plusieurs influences, de plusieurs cultures et de plusieurs langues. En quoi tout ça, ça s'exprime en vous et ça influence aussi votre choix d'écriture ?
C'est une richesse absolument fabuleuse parce que ça permet des ouvertures sur les autres cultures, ça m'a permis de beaucoup voyager, de continuer de voyager. J'adore vraiment me déplacer, aller aux quatre coins du monde depuis très très longtemps. et je m'enrichis comme ça. J'aurais aimé parler plusieurs langues, malheureusement ce n'est pas le cas, mais celles que je connais, que j'utilise, j'essaye de les vraiment d'en tirer le meilleur pour aller voilà, à la découverte du monde, à la découverte de ce qui se passe sur notre planète. Et je m'enrichis, bon, essentiellement par la littérature, parce que je lis en voyageant, mais j'essaye aussi par la peinture, par la musique, d'écouter, j'aime écouter la musique, j'aime voir la peinture, la sculpture, j'aime aller à la rencontre des gens même pour partager le repas, et j'adore ça, je suis très curieux des costumes des gens. Quand je dis costumes, c'est-à-dire les vêtements, les habits que portent les gens ici et là, ça c'est l'héritage de mon père et de mon grand-père qui était déjà dans les montagnes, qui était déjà tailleur, mais tailleur traditionnel. J'ai un goût, vous savez, pour ce qui se fait en matière de vêtements. Donc, je m'enrichis de toutes ces sources-là.
Et comment vous tenez, je sais que c'est une question qu'on doit souvent vous poser, cette articulation entre l'identité, les racines, tout ce qui forge qui vous êtes le message universel de la littérature. On a le sentiment aujourd'hui que la littérature au Maghreb assume de plus en plus une identité enracinée, c'est-à-dire qu'on parle à partir de ce que l'on est et à partir de son territoire. Et comment vous arrivez à articuler ces questionnements personnels, hein? On rappelle que votre dernier livre part d'une urgence presque personnelle, d'un impératif personnel, et la question de l'universel.
Ben voilà, c'est ça, c'est que vous ne vous mettez à écrire que quand ça devient, quand cette obsession ne vous lâche plus, c'est elle qui décide, ce n'est même pas vous qui le décidez. Et pour moi, c'est quand ça allie les deux, je crois, si je devais disséquer cette chose pour la comprendre, c'est quand il y a cette obsession qui est liée à la fois à ce qui est strictement personnel, qui me lie. Vous savez, je suis très très attaché à Tzaza, ça ne se voit pas peut-être dans mes textes, j'écris ça dans des textes un petit peu courts, mais dans tous mes livres, en fait, Tzaza est dissimulé, et quand il y a donc cet aspect personnel qui est lié à l'universel, et cela devient absolument impératif à mettre noir sur blanc. C'est à ce moment-là que je me mets à écrire, sinon ça ne me semble pas être prêt pour être écrit, ou même de toute manière, ça ne me semble pas être nécessaire à être écrit, parce que ça ne me dérange pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette conjonction entre l'intime que je vis au fond de moi, que je vis en permanence, vous pouvez l'imaginer, et puis l'universel. Je suis hanté par l'universel, mais l'universel lié à César. Alors je vais vous faire une petite confidence. J'ai commencé à réfléchir, ça fait un an avec des amis que j'ai associé à ce projet. On aimerait, alors je me suis dit que Tzaza était une ville de la marge, et j'ai des amis qui sont de Bni Mellal. Donc on s'est dit que, au lieu de parler de Tanger, de Casablanca, de Rabat, de Marrakech ou de Fès, que nous allions parler au monde à partir de deux villes de la marge. C'est-à-dire, vous avez entendu, parler au monde, rien que ça, à partir de Tzaza et de Bni Mellal. La première rencontre va avoir à Bni Mellal au mois de novembre, et au mois de mars, la rencontre aura lieu à Tzaza.
C'est-à-dire que sont vraiment, des rencontres littéraires ?
Pas seulement, puisque nous avons quelques peintres qui vont être avec nous. Notre ami Fouad Bilamine, entre autres. Donc, vous voyez, il y aura des musiciens, mais des écrivains aussi. Au départ, ce sera très, très intime. Ce sera des amis, la rencontre de quelques amis. Mais on aimerait qu'à temps, à terme, ça puisse se développer. Mais vraiment, ça ne sera pas des rencontres pour aborder des petites choses qui se passent dans la province. C'est vraiment des grands débats. Mais les grands débats du monde seront abordés à partir de Tzaza et Bni Mellal.
Eh bien, magnifique, on sera au rendez-vous alors.
Ah ben, j'espère bien. Donc vous voyez, pour répondre à votre question, vous voyez, c'est l'intime et l'universel, parce que pour nous c'est une obsession, comme avec mes amis de Bni Mellal qui vivent entre Rabat et Paris. Voilà, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on essaye d'établir un pont, voilà, un pont qui partirait de Tzaza et de Bni Mellal vers le monde, aux quatre coins du monde.
Ça a l'air d'être une belle aventure. Nous avons hâte d'en savoir plus. Alors, on va bientôt arriver à la fin, malheureusement, de cette conversation. Mais je voulais vous poser une question par rapport à quelque chose que vous dites dans un entretien et qui m'a interpellée. On a un peu parlé de votre identité multiple, hein, de vos racines. Et par rapport à la question de la langue, vous dites dans un entretien que la langue ne suffit pas pour faire la littérature. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ?
Il faut beaucoup de rêves, il faut de grands rêves, et il faut aussi avoir des blessures au fond de soi et des espoirs. Il faut pouvoir libérer, pour pouvoir vouloir libérer ces blessures qui sont au fond de soi par des rêves, par un espoir très grand pour essayer de voir la lumière, pour avoir la paix. Celui qui n'a que la langue. Et il faut lui souhaiter d'être heureux et de se suffire de la langue.
Vous me faites penser à la phrase de Nietzsche. Il faut avoir beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse.
Je ne la connaissais pas, mais elle est très belle.
C'est à elle que je pense en vous écoutant parler. Une dernière petite question, Kevel Mustapha Amy, oui. c'est l'été. Qui dit été, oui. dit vacances. Est-ce que vous nous préparez un nouveau projet ? Est-ce que vous consacrez, même si je sais qu'un écrivain, et vous le dites souvent, et vous me l'avez redit d'ailleurs, un écrivain n'est jamais en vacances parce qu'il pense à ses romans 24 heures sur 24. Mais sur quoi travaillez-vous, si ce n'est pas indiscret, et si bien sûr vous pouvez nous en parler ? Quel est votre prochain projet littéraire ?
Avec grand plaisir. Je suis en train de mettre au propre un long poème qui va sortir aux éditions du Seuil en janvier 2026. Et c'est un long poème, c'est un seul poème, c'est un très très long poème qui va, je pense, faire 120 pages, vous voyez. Et c'est un long poème dans lequel j'aborde à la fois ce qui est intime, ce qui est de l'ordre de la biographie, mais aussi les grandes histoires qui ont traversé l'Afrique, l'esclavage, la colonisation, tous les drames et toutes les tragédies que nous vivons en Afrique. Et ce long poème est une traversée de l'Afrique au sens géographique et au sens historique. Et il s'intitule Chant au pluriel, Chant pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur.
Oh, titre magnifique.
Merci. Ben
on vous recevra à nouveau pour en parler. Dès qu'il sera, vous m'avez dit novembre 2025.
Janvier 2026.
Janvier 2026, pardon. Oui. L'attente va être longue.
Je vous réserverai un exemplaire.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Kevel Mustapha Amy. C'est toujours un vrai bonheur d'échanger avec vous. Vous êtes une leçon de sagesse ambulante. Je rappelle le titre du dernier livre, Le coiffeur aux mains rouges. C'est paru, je le dis encore parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition personnellement, Elizade. Voilà. Donc, merci encore. Je vous souhaite de très belles vacances et j'espère à bientôt.
Merci beaucoup, Hanan. Un très bel été à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir.